Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malt, la bière du 12e joueur.
Hilton,
yo.
Il paraît que les gens pensent que quand l'Impact perd, on est content. Fact c'est ou pas... fiction?
C'est pas totalement vrai.
Mais c'est pas totalement faux.
C'est pas totalement faux. au fait, on est diverti.
On aime la variété.
Ouais, parce que là, s'ils avaient gagné, à Casey, avec cet alignement, on aurait dit OK, that's it. T'sais, on peut être tranquille.
Playoff.
Jusqu'au mois de juillet, t'sais, playoff. T'sais, Rémi Garde, c'est un génie. Le prochain club français qui va perdre son coach, je vais venir le chercher. C'est un génie.
Le club a recruté en été un gros attaquant, un milieu offensif.
Là, on n'aurait pas été capable de calmer l'élan de positivisme de 2019. Non,
la positive attitude, on l'arrête pas.
Là, au moins, on va pouvoir changer de sujet. Et aller là où CCPP est fort.
Là où... Là... c'est quoi le truc de Star Trek, là? On va aller là où personne n'est jamais allé. Ou...
C'est où personne veut aller. Tu sais, maintenant, aller, avec l'abondance des podcasts positifs, il faut se nicher.
Il faut être une niche. Donc, nous, on va être un podcast.
Moi, si on répète tout ce que les autres ont dit en disant lui, il est bon, lui, il est magnifique, lui, il est super, lui, il s'en va, lui, c'est le meilleur défenseur de la Ligue, bah, tu sais, on peut arrêter, puis je vais avancer sur Netflix.
Nilton qui attaque tout le monde. Ah, je suis revenu depuis un bout, la fille, elle dort, puis là, Nilton, il commence à attaquer tous les podcasts, tous les Patreons et tous les joueurs de l'Impact.
C'est comme ça, dans le fond. Ça va aller vers mon autre sujet. J'ai écouté le show de Ricky Gervais pendant que t'étais pas là, toi.
Il était excellent.
Oh boy, c'est une mauvaise influence pour moi, ça.
Ah, c'est... Mais ça, c'est ton style d'humour, Ricky Gervais. Tu devrais aller voir tous ces spéciaux Netflix. C'est de l'humour noir, là.
C'est malade, hein?
C'est trop marrant.
Moi qui aime rire des gens, oh yo yo. C'est pas bon pour moi, là. Je vais aller voir son... c'est comme une mini-série de 6 épisodes,
ouais.
Là.
Afterlife, ouais.
Ouais, ouais. Oh yo yo. Alors, si on fait un CCPP 3 jours plus tard, là...
C'est déprimant.
Ça risque d'aller loin.
On aurait commencé à parler de promotion-relégation. On aurait commencé à parler de...
C'est un sujet qui...
Qui te tanne. C'est intéressant, là, mais... ce qui est bien,
les gens veulent la relégation comme système de punition, puis après 45 minutes, les gens veulent arrêter d'écouter le match contre Casey.
Exactement.
Okay.
Donc, on choisit. mais ce qui est marrant, en tout cas, bon, on arrête ce débat sur le pro-rel, mais ce que j'aime bien, regarde, CCPP, hein, c'est aussi une session de thérapie pour tout le monde. Tout le monde nous tag. On a quoi? On a 27 questions minimum qui ont répondu au tweet. Je compte peut-être une autre dizaine qui nous ont posé des questions en plein match, juste en mode panique. Donc,
et là, le problème, c'est qu'on enregistre trop, avec plein de questions qui vont rentrer pendant la journée qu'on ne pourra pas répondre.
Exactement. Et c'est une session de thérapie. On est là pour aider. Nous aussi, on a besoin de s'exprimer. On aime le foot. On aime bien l'Impact. Je ne sais pas si l'Impact nous aime bien en retour, mais nous, on les aime bien. Donc, on va vous aider à passer à travers ce moment difficile. Et pour dire que tout va bien aller. It's gonna be okay, guys.
It's gonna be fine.
Ça va aller. Et puis, j'adore la question de Fred Jean-François qui lui demande notre bière préférée, la Force du Mal. Donc, j'ai hâte de répondre à ça. Et puis, voilà. On n'a pas encore battu le record du plus grand prologue de CCPP. Mais...
Il faudrait faire une édition spéciale, juste prologue.
Juste prologue. Ouais. On va faire un autre podcast qui s'appelle CCPP Prologue.
Voilà. On va attendre que ta fille vieillisse.
Ouais, quand elle aura 18 ans, ça va aller. Dans 18 ans, je suis prêt. Mais.
Ça risque d'être encore les mêmes sujets.
Non, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, mais. Regarde, avant de commencer, juste pour vous dire, ce match-là, il ne faut pas être surpris. Il faut être choqué par le score, mais il ne faut pas nécessairement être surpris parce que. Pas ce que Casey a fait. Donc voilà, sur ce. Ben on commence dans 3, dans 2, dans 1.
Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact. Football Club. les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.
Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition du CCPP, communément appelé Couscous Piri-Piri. Moi c'est Sofiane, évidemment le Couscous vous me connaissez, et le Piri-Piri du podcast québécois Soccer, c'est Nilton George avec moi.
On dit Soccer.
Soccer. Salut, salut Joao.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci. Merci tout le monde d'être avec nous pour cet épisode numéro 6. Et merci encore à Julien Tardif d'avoir remplacé pour l'épisode numéro 5. Julien Tardif, c'est aussi le Orji Oyonko du podcast. Il m'a remplacé, il est venu nulle part en prêt, puis boum, il a performé comme un champion.
Et on a même pensé de le mettre en pointe, là.
C'est vrai en plus, le côté droit, puis on était les muscles, il a du muscle dans son jeu, puis il a mal allé vers l'avant. Donc voilà, merci Julien Tardif, qui est aussi un des analystes dans l'émission Cannes FC, le podcast, qui a fait son retour, Back from the Dead, tous les mercredis soirs à 18h en direct sur choc.ca. Évidemment, sur les balados, les plateformes de balado diffusion, c'est aller chercher Cannes FC, le podcast. Et Rome, je voulais d'abord remercier aussi La Forge du Malte, la microbrasserie de Trois-Rivières qui est non sponsor depuis l'an dernier. Donc, merci beaucoup Guy Lafrenière et toute l'équipe de La Forge du Malte pour nous sponsoriser. Donc, merci encore. Puis, allez consommer leurs produits et aussi aller à leur salon de dégustation à Trois-Rivières. Et aussi, je voudrais aussi remercier Spreaker, la plateforme de podcast qui distribue tous les podcasts du CanFC, du réseau CanFC. C'est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Donc nous on a du succès, ben, c'est grâce à Spreaker, aussi grâce à nous surtout. Mais les outils que Spreaker nous donne nous permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser vos podcasts en quelques clics et depuis un seul endroit. Allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Et comme t'as dit Hilton avant, je pense que les podcasts sur l'impact qui pullulent, je pense qu'ils pourraient profiter d'aller sur Spreaker. Pour commencer l'aventure, nous on accueille tous les nouveaux, même si c'est un petit peu de jalousie de ma part et de hate.
C'est de l'amour transformé.
Je fais ça depuis 8 ans, mais c'est correct. Voilà. Mais c'est une réaction normale. Après, j'ai vu que, bon, en réalisant, c'est bien qu'il y ait plus de podcasts, plus de variétés et plus de contrastes. Donc, bienvenue à tout le monde. Tu sais, podcast BNB, MFC Radio, qui d'autre, Coup Franc qui fait son retour sur Vie au Parc.
Et on a même droit au mainstream du mainstream, le nouveau podcast de TVA Sport avec Laure. Camara et Captain Bear.
Le 11 Montréal.
Salutations à tous. On a hâte de vous entendre.
On a hâte de vous entendre. Puis bonne chance, bienvenue. Welcome to the party, pal. Comme dirait John McClane dans Die Hard 1. Et puis voilà, bienvenue. Mais 11 Montréal, le nom, il manque un peu de pep dans le nom, mais c'est pas grave. Non, c'est vrai.
À la fin de tous tes beaux mots, tu lâches une petite craque à la fin.
Non,
on aime ça.
J'étais un peu déçu de nom, parce que je savais que depuis un bout qui se prépare ce podcast, le nom, il manquait un peu d'épicé. Il manquait un peu de Nilton. Hein?
Ouais.
Voilà.
Who knows.
Donc, c'est ça. Merci beaucoup de nous écouter. Puis, je pense qu'on peut commencer tout de suite l'épisode, l'émission, le contenu foot. L'impact a perdu 7-1. 7-1.
Je pense qu'il y avait juste 90 minutes.
Heureusement, c'était pas un match aller-retour. L'Impact a perdu 7-1 contre Kansas City à Kansas City. Donc, l'Impact rentre dans l'histoire parce que KC devient le 5e club MLS dans l'histoire de la Ligue à marquer 7 buts dans un match. Donc, c'est pas mal. Puis, c'était pas pour Tyder qui marque le seul but de l'Impact. Montréal aurait été un nouveau record qui aurait été établi, mais heureusement que Saifir, c'est un vrai. Donc au niveau de ce match-là, je sais pas trop s'il y a trop. Bon, on va en parler de bon. Il y a quand même un 11 partant qui a commencé. Donc juste le mentionner pour nous du contexte à nos débats, puis les questions que nos auditeurs et auditrices se font un plaisir de nous poser. Donc du côté de Kansas City, un 4-3-3, mais il y a dans les buts Zussi, Fantas, Bessler, Sinovic, Espinoza, Sanchez, Gutiérrez au milieu de terrain, Russell, le tueur écossais, Nemeth et Guerso. Du côté de l'Impact, le 4-3-3, Lovitz, Camacho, Cabrera, Sagna devant Evan Bush, Shamit Chaume, Samuel Piet, Azira au milieu de terrain, Tyder côté gauche, Oruti en pointe et Oyonko côté droit. Donc c'est pas mal ça au niveau de ce qui s'est passé au l'alignement. Les buts, je pense Johnny Russell a un doublé, Nemeth un triplé, et les buts ensuite de Gutiérrez et Gianluca Busio. Donc c'était pas mal ça. Et évidemment, Savitaider qui marque à la fin du match, à la 89e minute, sur une belle combinaison entre Orotti et Lovitz. Orotti qui fait une belle passe à Tider qui ensuite déjoue 3-4 joueurs, déjoue d'un tir le gardien et 3-4 joueurs de Kansas City pour un peu sauver l'honneur du club. Mais Nilton,
le
vrai sujet, l'histoire, la plus loufoque et importante autour de ce match, n'a aucun rapport avec le match.
Oh, c'est pas possible.
Je pense pas qu'on sera d'accord, mais on va expliquer. Bon, on va expliquer déjà l'absence de Piatti, il est blessé. Il n'a pas fait
ça
le voyage.
Aussi, ça a été drôle comment ça a été traité. Tu te souviens l'année passée où c'était...
C'était pas contre Toronto?
Oui, exact. C'était un secret papal. Là. C'était stratégique. Il ne fallait pas le dire que Piatti allait être absent parce que ça allait nous donner un avantage. On nous a martelé là, pendant des jours. Les journalistes, là, je me souviens un débat avec Dave Lévesque, où je disais non, ça ne sert à rien. Tout le monde va le dire. Une équipe ne change pas sa tactique parce que Piatti est absent. Il va changer sa tactique si Piatti se représente dans un match où il était censé être absent. Ouais. C'est l'inverse. Non, j'étais dans le champ. Tout le monde disait que c'était une belle stratégie. Et là, poup, là, on le sait pratiquement 3 jours à l'avance que Piatti va être absent. Ah, OK. T'sais, les gens oublient les anciens débats. Ils acceptent.
Je suis tout à fait d'accord.
Et ils acceptent tout d'un coup là, comme c'est un fait accompli. Même s'ils ils avaient des opinions complètement tranchées et inversées il y a un an. Donc, bon, OK, Piatti est absent, fine.
Mais c'est vrai. Tout. Et en plus, même Garde a gardé un doute, quand même. À un moment, il dit, j'évalue encore s'il reste là ou pas, mais...
Mais oui, lui, il va attendre jusqu'à la dernière minute, et c'est normal.
C'est vrai.
On l'a vu pourquoi. Là, on l'a toujours su, et ça a été encore plus grandement confirmé que la nature-dépendance, ça ne sera pas en 2019 qu'elle va être réglée.
Oui, puis... Et je répète encore une fois, avoir une nature-dépendance, c'est normal, c'est bien. Et puis le but, c'est que tu peux tout avoir une nature-dépendance et avoir une équipe beaucoup plus forte que maintenant ou que les années précédentes. Juste qu'il faut que ton équipe soit un peu, monte de niveau un peu plus avec des nouveaux joueurs, plus de talent, meilleure exécution. Mais toi, tu vas tout en dépendre d'un joueur. Chelsea, les années Lampard et Drogba, ils dépendaient de Lampard et Drogba et puis ils avaient des grosses équipes. Les dépendances, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et quoi qu'il y ait des clubs comme Casey qui te font penser que peut-être ils sont pas dépendants d'un joueur spécifique, t'as cette impression-là parce que c'est une certaine continuité à travers les années avec Peter Vermes qui te fait voir, le gars il fait des roulements importants de son effectif de façon régulière. Dès qu'un joueur coûte trop cher, il est capable de l'échanger pour beaucoup d'argent, puis il le remplace par des gens
avec des jeux. Il est là pour faire son Moneyball version MLS à chaque fois.
Puis il gagne à chaque fois. Il gagne à chaque fois, c'est incroyable. Et c'est ça qui est très fort du côté de Casey, qui est vraiment la référence MLS pour moi en termes de gérer un club, gérer une organisation. Je pense que LAFC commence à y arriver, mais eux, c'est en mode on a beaucoup d'argent. Mais quand je vois ce que Casey fait, c'est assez impressionnant. C'est pas la première fois que je le dis, tout le monde le sait déjà, je vais pas répéter l'évident, mais je trouve ça assez intéressant de voir ça. Mais l'autre histoire loufoque,
vas-y Nilton. Qui a été caché au moins pendant 24 heures parce qu'ils l'ont su rendu à l'aéroport.
On l'a même pas vu dans les Instagram stories. Incroyable.
Va falloir commencer à les analyser, qui est là et qui n'est pas là dans les stories.
Exactement.
c'est triste. Sérieusement, quel timing incroyable. Il fait son entrevue Novilo avec Brett au 91.9 en se traitant lui-même de petit con à 18 ans.
Ouais.
Et là, il fait... il donne la preuve ultime qu'il reste un vieux con.
Nilton, t'es fort.
Sérieusement?
Oh, regarde, Novilo a juste perdu son passeport.
OK. Il s'en allait pas à Puerto Vallarta, Puerto Cana. Il s'en allait pas à se la griller là, au soleil là, sur une beach. Là. As-tu déjà entendu un joueur?
Non. Ça...
Être absent parce que son passeport a été perdu?
OK, là, on a un doute qu'il a vraiment perdu son passeport?
Ben non, c'est sûr que c'est ça.
Il a perdu.
Non, moi, je suis pas dans le complot. Non, là.
Moi, je trouve ça
quand
triste.
Quand t'inventes quelque chose, t'inventes une blessure.
Je trouve ça un peu triste, mais marrant. Voilà, le gars, il est pas là. Ça a changé les plans de Rémy Garde.
Totalement. Tellement qu'il a été déstabilisé. On a vu un Rémy Garde déstabilisé.
Ouais.
Parce qu'il s'est dit, merde, moi, j'ai essayé de préparer cette équipe-là à l'absence de Nacho Piatti. À 24 heures, j'ai plus le temps. Donc, il a fait du bricolage. Hein, quand il est un peu stressé, il utilise toujours des solutions inadéquates comme Piatti avant-centre, Taider allié gauche. Cette fois-ci, au moins, on n'a pas sorti. Ça aussi, ça avait été drôle quand il avait été essayé à gauche, Taider, en disant « Oui, il a déjà joué à Bologne comme allié gauche. Au moins, là, on ne l'a pas sorti. Hein, on l'a déjà vu comme allié gauche. » C'est pas tout à fait ça.
Pas tout à fait ça. Mais
Novilo a scrappé. Son histoire là, a complètement scrappé l'équipe. On l'a vu. Là. Cette équipe était atteinte. Il a dû avoir un 24 heures là, de climat un peu bizarre.
Regarde, moi, ce qui me dérange, c'est que, regarde, moi, le gars qui passe son passeport, je dis que ça arrive. Je ne veux pas le juger pour ça. Honnêtement, regarde, je suis pas d'accord qu'il est toujours lui. Mais Milton, c'est un humain. Il va faire des erreurs. Je comprends que c'est peut-être une faute professionnelle, à la limite. OK, je comprends.
Non, c'en est une.
Oui, mais disons que le fait est là. L'acte a été fait. Moi, je veux pas nécessairement seulement analyser le fait qu'il a perdu son passeport. C'est pas grave, il a perdu son passeport. Ce qui arrivera, arrivera. Ce qui est arrivé, est arrivé.
C'est Amel qui perd son passeport, le discours qu'on a.
Bon, on aurait pas ce débat, je pense, pour Jackson. On aurait dit, OK.
Non, c'est enflammé.
Tu penses? Non.
Ben oui. Sur, même Rémi Garde aurait été plus sec. Rémi Garde doit protéger son recrutement. Il est allé le chercher en disant qu'il avait changé.
Oui, c'est vrai. Mais moi, je trouve fort le lien entre le fait qu'il s'est traité de con quand il était jeune avec Olivier Brett, puis c'est quelque chose qu'il avait déjà dit avant, qu'il était pas sérieux quand il était jeune, et qu'enfin, la collation avec maintenant. C'est pas comme si, je sais pas, on l'a trouvé à faire la fête, à faire de la drogue, à 2h du matin, la veille du vol.
Toi et moi, on est cons à tous les jours.
Oui, mais j'étais con, moi, à son âge, là. Très con quand même. Mais je fais pas la corrélation entre perdre son passeport et être immature. Ça arrive. Too bad. Bonne chance. J'espère qu'il retrouve son passeport pour le prochain match. Ou qu'il le donne à nouveau par, je sais pas, le consulat français ou whatever, là. Mais ce qui est.
Il y a une responsabilité envers le club.
Et le club va le gérer. Mais moi, ce que je trouve bizarre, qui m'a un peu pitié, c'est quand Martino avait tweeté en direct de Casey que Garde a dit qu'il y aurait des sanctions disciplinaires contre Novilo. Ouais. Je me dis, donc c'est une règle d'équipe, si tu rates un match, un vol à cause d'une erreur bête, ben t'es puni, ou est-ce que ça cache autre chose? Je dis, pourquoi tu vas punir un gars qui a perdu son passeport? Tu sais, je l'ai perdu. Mais maintenant, je me demande, il a perdu comment?
Mais il s'est rendu indisponible, point.
C'est ça, donc je me dis, c'est soit ça, ou soit c'est une histoire qui se cache, que je ne suis pas trop intéressé à savoir ce qui est arrivé.
Tu ne peux pas inventer une histoire en disant à la fin, il a perdu son passeport. Tu inventes mieux que ça. Come on, le gang.
Perdre le passeport, ce n'est pas l'histoire qui a été inventée, mais c'est plus le... Pourquoi on va le punir pour ça, à moins que ce soit un règlement interne du club, puis tant mieux, OK. Tant mieux. Mais en tout cas, je trouve ça bizarre qu'on se focalise pendant le match, avant le match ou après le match, hein? De dire on va le punir. Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu vas le dire publiquement qu'il va être puni?
Non, mais t'as un message au public aussi.
Mais le dis pas, fais-le.
Non, mais les gens.
Ne le dis pas, fais-le.
C'est important pour calmer un peu tout le monde, pour dire. Écoutez, là, les partisans, là, on s'en est occupé, puis voici entre autres ce qu'on fait. Là.
Il communique pas après, quoi, il va communiquer sur le fait que Chamin Chom a jeté son maillot.
C'était con. Ça, c'est con, la réaction, là, pas de Chamin Chom, mais ceux qui ont été outrés. Là.
Encore une fois, t'as utilisé le mot con très facilement. Attention.
ça va être dans le titre.
Non, mais c'est vrai, en tout cas.
Le jeune est fru, il lance son maillot. Ben oui. Il pense pas qu'il est en train de jeter contre le respect de Montréal. Là. Il est pas le pantoute. Là, nous, ça c'était chercher des bébites.
En plus, il s'est excusé sur Twitter. Le gars était clairement était plus frustré par sa performance. Le gars, il s'est fait manger au milieu de terrain. T'sais, il joue pas un match depuis je sais pas combien de temps, puis on le met contre.
Oui, il y a eu une chance en un an.
Puis on le met contre Casey, le meilleur club à MLS, à l'extérieur. T'sais, come on, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? T'sais, et puis lui, il le sait qu'il n'aura pas dû réagir comme ça.
Il y a vraiment du monde qui ont cru que jeter son maillot, c'était une attaque envers le club.
Non, pas du tout. Moi, je pense que tu peux faire le même geste. Mais c'est quasi un contexte.
Moi, la meilleure réplique que j'ai vue, je me souviens plus c'est qui là, sur Twitter qui a dit ça.
Non, et si Nilton ne donne pas le crédit, on vole les idées, OK?
Okay.
Je prends l'idée et puis on s'en fout du reste.
Oh merde, il faudrait que je le trouve. Bref, je pense que je vais aller retweeter. Il y a des gens qui attaquent le fait que Xiaomi a lancé son maillot. la même journée...
C'est très hockey.
la même journée où il y a eu une file où des gens échangeaient leur maillot pour un nouveau.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Ah.
Ouais, j'avais vu ce tweet-là, ouais.
Ah. Je veux dire, qui manque de plus de respect?
Oh, Newton avec le double sens dans tout ce qu'il dit. Attention.
Non, regarde, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas parlé.
Non, ça, hein, il faut que toi aussi, tu as besoin de thérapie. Mais ce qui est intéressant, regarde, la réaction par rapport à chez Mitchum, c'est une réaction très... Je dirais pas, ok, très nord-américain, genre le maillot, faut pas toucher. Tu sais, le Barça aussi, tu jettes le maillot, tu te fais rentrer dedans au Barça ou au club des trois norvégiens. Ça, c'est un standard de valeur d'un club, quel que soit le sport, quel que soit le pays, le continent. Mais le contexte est différent. C'est pas comme si,
je sais pas, s'il avait voulu faire un message, il aurait enlevé son maillot sur le terrain, bang, oui. Tu laisses-le à terre. Tu sais, c'est symbolique. C'est là, ça. Tu le voyais, rempli de colère.
Si Drogba, il rentre, il se fait sortir par Bielo durant un match, puis pour être titulaire, puis il a son maillot sur le terrain, ça c'est un autre message.
Il peut faire le CPP.
Facile, en direct. et voilà, le contexte est différent. Que le gars, il est frustré, il est jeune, puis même moi, je jette mon maillot de temps en temps quand je joue. Alors que j'ai aucune raison
toi,
de le faire.
Mais toi, t'as le droit. Toi, c'est culturel. Vous avez le droit, vous.
Vous. C'est qui nous, Nilton? C'est qui nous? Oh mon Dieu. S'il y a des gens de la CAQ qui nous écoutent, regardez, moi, je suis pour la diversité, pour... Hein?
Ouais, tu dois être content qu'on a enlevé notre croix.
Oh mon Dieu, le podcast va en délire. Donc c'est ça, donc on a eu deux sujets. On a commencé deux sujets un peu chauds, Novilo, le passeport
et la croix
et Chamichom et le maillot. Donc c'est assez symbolique par rapport à comment c'était l'avant-match, Novilo qui perd son passeport et puis on voit que les gens se posent des questions, qu'est-ce qui se passe, puis on voit l'équipe qui s'effondre assez rapidement parce que Casey était juste trop bon et ensuite Chamichom qui représente tellement le gars qui a été mis au mauvais endroit, à la mauvaise place, au mauvais moment, puis qui se fait détruire comme le reste de son équipe, hein. C'est pas comme si personne n'a vraiment survécu à ce naufrage-là.
Si Rémi Garde avait eu du temps calme pour repenser à son effectif. Je pense pas qu'il aurait débuté ce match-là en 4-3-3 avec Taider à gauche. La logique, tu sais, quand on voit ce match-là, nous, à tête reposée, la question qu'on se demande, c'est pourquoi il n'a pas utilisé ses éléments les plus forts qui restaient encore sur le banc? Entre autres, Jackson Hamill.
Right, alors.
Exactement, tu sais. Tu joues à la limite un 4-4-2 à plat avec un Lovitz devant Raitala, avec Jackson qui combine avec Urruti. On le voit, Urruti, il est fort dans la combinaison, pas dans la finition, dans le développement du jeu. Et ce schéma tactique donne un indice du niveau d'énervement de Rémi Garde.
Oui, mais il y a quelque chose.
Et même pendant le match, juste pour terminer, le match, on le sent même énervé parce que, encore là, la logique voudrait qu'on s'adapte parce qu'on est en train de se faire manger au milieu. Il n'y a pas ce qu'il faut comme élément pour avoir du jeu posé. Et il ne fait pas les modifications nécessaires. Jackson Hamill reste sur le banc tout le long.
Mais au niveau du déroulement du match, Nilton, c'est que. T'as l'action où je pense que c'est Lovitz qui fait une passe dans la surface, puis Oyonko il rate de mettre le pied. Je sais pas si c'est Lovitz qui a fait.
Ouais, mais il y a ça. Surtout avant ça, Urruti qui l'oublie de mettre son pied.
Oui, il y a ça aussi, oui. Johnny Russell qui marque la 10e. Et après, pendant 30 minutes.
Il touche plus au ballon.
Il touche plus au ballon, mais c'est calme.
Ne touche plus au ballon.
Oui, mais Casey n'a pas.
Non,
mais Casey a du danger, mais. Entre guillemets, on a l'impression que Kitty, il les gère bien, ça, ils vont aller à la mi-temps 1-0.
Ben, moi, je ne suis pas d'accord. J'avais l'impression qu'on était en stand-by de prendre le but parce qu'à chaque fois, la finition n'arrivait pas du côté de Kansas City.
Oui.
On était juste.
Oui, mais il n'avait pas. On aurait dit. C'était comme si. Comment dire? C'est quel match qu'ils avaient gagné? C'est comme Orlando. Orlando avait quand même des chances de marquer contre l'Impact. Puis ils ont été assez maladroits. Tu sais, Casey, ils n'ont pas fait une passe en arrière dégueulasse. Ils n'ont pas fait des on-goal. Ils n'ont pas créé leur propre but contre eux en mode cadeau. Donc, Casey, c'est différent. Mais j'avais l'impression que, OK, 1-0 à la mi-temps, ça va aller. Puis, boum, deux buts en deux minutes. Et c'est 3-0 à la mi-temps. Déjà ça tue le match, et le match a été tué ensuite à la 50e, à la 5 minutes après le début de la deuxième mi-temps, et le match était fini. Il était déjà fini à 3-0, mais à 4-0, on le confirme que c'est dead. Et je pense que voilà, ici, lui, il voit le déroulement du match. Les gars, on finit à 1-0 à la mi-temps, on est bien. Je fais rentrer Jackson Hamel, ou il allait changer quelque chose, je suis pas mal sûr. Mais en même temps, le 4-3-3, c'est le pain et le beurre de Jeremy Gard. Il va pas le changer. Et il va pas le changer pour deux raisons. Déjà, par rapport à ce match, pour deux raisons, il le change pas, parce que de un, c'est son pain et son beurre.
Mais son pain et son beurre, c'est Nacho Piatti.
Oui, mais c'est aussi le 4-3-3. Piatti, il joue pas dans 4-4-2.
À cause de Piatti.
Oui, mais dans le foot moderne.
Il est obligé de jouer en 4-3-3. Tant qu'il y a aussi longtemps que Piatti dans la 11.
Oui, il aurait pu jouer en 3-5-2 ou en 3-4-3, puis mettre Piatti côté gauche, ça n'aurait rien changé. Mais lui, il va jamais jouer.
Novilo est là, on peut comprendre. À la limite, Chouanière est là, on peut comprendre. Il y a les ailiers pour. Mais quand tu déploies un schéma et tu n'as pas les joueurs pour jouer dans ce schéma-là, c'est illogique.
Oui, mais Nilton, c'est pas comme s'il faisait un schéma tactique qui était inédit. Puis il était OK. Si t'es pas capable de faire un 4-3-3 avec un effectif professionnel, c'est que t'as un problème.
C'est d'utiliser le pauvre Chaumy dans une situation comme ça de 90 minutes au milieu de terrain.
Mais il allait mettre qui?
Et d'utiliser Tider.
Mais il avait le choix entre lui et puis Chouanière. Et Chouanière,
il avait le choix entre Tider là, point final.
Non, mais il met qui à la place de Tider côté gauche? Il n'y avait personne.
Justement, d'où mon point, le 4-3-3 avait aucun sens tactique avec les joueurs disponibles.
Nilton, ça c'est un débat de saison, je suis d'accord avec toi, mais par rapport au match, tu le sais, je le sais, tout le monde le sait, que le 4-3 n'allait pas bouger. Au pire, on aurait vu un 3-4-3 de surprise, ou un 3-6-1. Au pire, et tu le sais ça.
D'accord avec toi.
Attends, ça fait un an qu'on va à Rémy Garde. Il va pas changer du 4-3-3 à moins qu'il est forcé.
C'est pas parce qu'on sait qu'il va pas changer qu'on va pas le critiquer.
Non, je dis pas qu'il n'est pas critiquable, je dis juste le fait que Mathieu Chouanière s'est blessé et puis qu'il venait à peine de s'entraîner avant de quitter Casey. Il y avait personne d'autre. Il allait pas faire jouer à Marcedic. Jackson Hamel, ça change quoi? Lui, ça changera dans sa tactique, c'est un attaquant pointe. Puis la seule.
Tu joues en 4-4-2, t'as un gars qui est avançant.
Oui, je suis d'accord. Oruti, Oyonko, ça aurait été intéressant, je suis d'accord, Nilton. Mais.
Et à l'extérieur, t'assumes le jeu. Regarde, tu te prépares en conséquence.
Nilton, je te promets, ce débat-là, on va l'avoir plus tard en saison, quand on va avoir un taux de roulement plus intéressant par rapport aux différents types de jeu que Rémy Garde va implanter. Pense pour le moment, et surtout que c'est Casey, c'est un match vraiment. On peut oublier dans le sens. Regarde, je finis sur ça, après on va passer aux questions des gens, des fans. C'est que moi, je sais pas dans quel monde on aurait pensé que l'Impact, avec ou sans Piatti, avec ou sans Tider et Piet, qui sont partis jouer avec l'équipe nationale, avec ou sans Diallo, que l'Impact allait chercher un résultat positif à Casey.
Ben, va voir le board de Pops.
Ah, mais le board Pops, il est tout le temps côté gauche. Là. Ça normalement, il est rempli au max.
On vit dans ce monde-là.
Oui, mais c'est des fans, c'est des super fans. Je m'attends qu'ils fassent ça.
Je parle même pas des fans. On vit dans ce monde-là.
De la positive attitude?
Oui.
Mais regarde.
De l'absence de critique parce qu'on décide qu'il y a trop de choses comme un fait accompli.
Oui, c'est vrai. Regarde, je prends un tweet qui avait l'air d'un tweet de positive attitude d'Alfredo Marcuzzi, qui avait un petit rant. Pourquoi on devrait avoir peur, l'Impact devrait avoir peur de Casey? C'est pourquoi on va aller en vaincu? Je dis, je suis d'accord avec toi, Arcadio. Moi, je trouve qu'avec l'attitude que l'Impact a cette année, aller à Casey avoir un résultat, c'est pas fou d'y penser. Même sans Piatti. Je pense que cette année, je dis, ouais, ils peuvent, Casey, quelque chose peut arriver. Mais en condition que le match soit parfait du côté de l'Impact. Bon, après, il a fait son mea culpa. Bah, il a dit oui, les gars pouvaient rire de moi.
Ouais,
après.
Ça, c'est fort parce que peu nombreux sont ceux comme Arcadio qui va reprendre un tweet où ils étaient complètement dans le champ.
Exactement. Puis même dans le champ, il a le droit d'avoir une opinion. Puis il s'est impliqué. Puis moi, j'ai même répondu à Arcadio. Là, c'est avoir une. T'as pas tort de dire ce que t'as dit, là. Loin de là. Je pense que avoir le courage
Mais il faut que ça serve de matière à réflexion parce que je peux comprendre, toi et moi, on a entre guillemets l'avantage de ne pas suivre le couple. Voyons, le club, on n'est pas là, on ne connaît pas les joueurs, on n'a pas d'attachement.
C'est vrai.
C'est vraiment plus facile, cet écart, cette distance-là. Mais quand tu es au quotidien, tu te fais un peu contaminer parce que ces gars-là, tu les apprécies, tu les trouves peut-être plus bons qu'ils sont. Puis...
C'est des êtres humains. Et
100% OK. C'est presque certain que je ferais la même chose. Sauf que s'il y a des gens qui pensent totalement l'inverse, eux, là, ils se font ramasser quand ils disent « Ouais, on sait bien. » Tu sais, quand je parlais de Vargas l'année passée, là, il y en avait plusieurs qui disaient « Oh, on sait bien, tout ce qu'il fait, c'est mauvais, Vargas. T'es négatif, t'exagères. Mm-hmm. » Peut-être que non. Peut-être que oui, mais on peut-tu des fois se dire que c'est une opinion tranchée de l'autre côté? Ça se peut que ça démontre quelque chose. Quand on est les deux seuls qui disons, ben, les Packs, malgré leur fiche, là, ils sont pas si bons que ça. Ils ont battu qui? Ils ont battu San Jose, qui mange des volées depuis le début du match. Il y a le match fou d'Orlando. Il faut comprendre le contexte des victoires et après se demander si c'est réapplicable.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Les contextes où on a perdu, ils ont été réapplicables plusieurs fois. Là, celui de Casey, c'est le contexte où quand Nacho n'est pas là, Montréal, c'est un club des bas-fonds.
Ben oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Puis c'est ce que j'avais surtout sur.
Et il faut pas dire ah, mais si on avait marqué le premier but, mais on aurait perdu 7-2.
Exactement, c'est je pense tout. Aussi. T'aurais juste réveillé Casey un peu plus tôt. Et ce que j'avais répondu à Arcadio quand il a fait son mea culpa entre guillemets, c'est pour dire l'attitude de ce début de saison, il a appuyé son point à lui, ok? Avec ou sans Piatti, puis d'aller chercher un résultat à Casey. Mais malheureusement, comment l'Impact joue au ballon, t'as aucune indication qui te ferait amener à la conclusion que l'Impact va faire mal à Kansas City. C'est impossible. Même sur un mauvais jour, c'est trop difficile. Ça joue trop bien. Ça joue à la maison. Il y a du bon cardio. Ça joue en transition. Il y a du talent. Gerso. Est-ce que t'as vu les ailiers de Casey? Ouais. Gerso et Russell.
Méchant Gerso, hein? Gerso Fernandes.
Gerso Fernandes. Mais il c'est une question de
contexte. Il faisait mal, mais au niveau comédie, il était fort.
Il était fort. Ben. Est-ce qu'il est portugais, c'est ça?
Ouais. Il a le nous.
mais quand tu vois, tu dis, Nemeth, Gerso, Russell, j'ai juste les ailiers. Oublie Nemeth. Nemeth, je le trouve pas si bon que ça, mais c'est un attaquant old school, disons. J'aime pas trop. Mais on voit qu'il y a une certaine logique dans l'impact. On voit, tu sais, Johnny Russell, c'est. Bon, Piatti, il met les deux dans sa poche. Mais ça change pas qu'au niveau du collectif, ça va faire mal. On le voyait venir.
Parce que son équipe est construite pour être prêt à tout moment pour rejouer son schéma tactique et sa façon, sa définition de ce qu'est un match de foot selon Vermees. Tout l'effectif est construit pour faire face à toute éventualité.
Exactement.
Quand on avait le débat de Balou, s'il sert à rien, il jouera aucune minute. On le voit là, rapidement, tout joueur peut être appelé à jouer un match. Mais il faut être capable de jouer ce genre de match-là. Show Me, c'est un gentil garçon. Tout le monde qui le côtoie le trouve extraordinaire. Mais non, il sera jamais capable. Il manque ce petit quelque chose, cette étincelle pour clutcher.
Mais il joue pas assez. Il joue pas assez, Newton. Moi, même analyser... Est-ce que Chaumy a fait un bon match ou pas? Même s'il joue les 90 minutes, même si Chaumy est un leader dans le match puis l'Impact gagne, le gars il joue jamais. Tu le mets contre Kansas City?
Non. Kulicki, on l'a vu dès le premier match, il lui manque plein de choses, mais il y avait quelque chose qui pouvait être intéressant à un club de la MLS. Chaumy, l'année prochaine, il est parti.
Moi, je préfère,
c'est triste.
En termes de football, je préfère Chaumy à Kulicki. Parce que je trouve que Chaumy a du ballon. Maintenant, mes choix sont pas tout le temps judicieux, là, mais moi, je l'aime bien. J'aime son potentiel. Kulicki, c'est un cravacheur qui fait juste courir. Mais on verra. On verra comment
les
choses...
Les gens à Montréal aiment les gens qui courent.
Ouais. Bah, surtout Robert Duverne. Mais... donc, c'est par rapport à ça. C'est à un moment, on peut pas à chaque fois... En tout cas, moi, ce match-là, même pas ce match-là, en détail, peut commencer à essayer de retenir des leçons. C'est vraiment une erreur. Parce que dans le sens, il n'y a pas de leçon à retenir parce qu'on l'a déjà retenu de l'an dernier. C'est qu'ici ils sont trop forts. L'Impact, ils n'ont pas de jeu. Même si Tadier est au milieu de terrain, même si Piatti était là, ils n'ont pas de jeu. C'est un jeu de contre. L'Impact va jouer un jeu de contre. Point final. À la maison, ils vont avoir un peu plus de position de balle parce qu'ils vont être confiants.
Jouer un jeu de contre avec Tadier à gauche, come on.
Oui, mais c'est anecdotique, Newton. C'est pourquoi je dis ce match est anecdotique. Ça va être un petit blip sur le radar, on va l'oublier rapidement. mais il faut juste que j'espère qu'il y a pas des histoires en arrière qu'on nous cache, parce que j'espère
non, je pense que
ok, parce que j'espère que j'espère
on avait un bon 2 mois de présence média, tous les joueurs et partout. J'ai hâte de voir cette semaine comment ça va se passer. Tout le monde était accessible, ça retweet à gauche à droite cette semaine,
ça retweet sauf moi, Nathan. Personne ne retweet à moi, Nathan, ok. Voilà, il faut dire la vérité. Personne ne me retweet, ok?
Ouais, mais t'es absent, t'es occupé.
Je suis absent depuis 8 ans, t'as raison. Established depuis 2011. Mais après, oui, vas-y, continue.
Va écouter Ricky Gervais. Alors, on passe-t-il aux questions des gens, parce qu'on en a beaucoup, puis...
Puis on a juste une demi-heure, c'est bon. Ouais.
Bon, on a déjà répondu à une des deux questions de Teach Tournesol qui nous posait les changements à la...
Salut Teach!
Oui, il y a toujours beaucoup de questions, Teach, merci. Mais une est vraiment intéressante et pas mal dirigée vers toi. Avec ses crises et son boudage sur le terrain, Tider est-il en train de se transformer en Dale Miley?
Quelle crise? Quel boudage?
Ben, je vais te laisser un peu de 2 minutes de réflexion pour te calmer. Puis je vais te dire, oui, il est en train de se transformer en Dale Miley, mais pas au niveau attitude, mais au niveau influence sur le terrain.
Explique.
On le voit...
Ouais, vas-y, explique.
L'absence d'efficacité devant, Tider s'est dit, comme Dale Miley l'avait fait, il dit, you know what, je vais aller en avant, je vais aller les marquer les buts. Oui, je vais aller en avant, me rendre disponible là, ou à chaque fois, Routy est derrière. Donc, mais son attitude, moi, ça ne me dérange pas. Transformer des personnalités, moi, ça m'énerve. Un gars est chaud, laisse-le être chaud tant que ça va. Tant que ça n'affecte pas les autres, et si ça en affecte juste une coupe, mais tant pis pour eux, OK? Ceux qui sont affectés par l'attitude de Tider, et c'est eux qui devraient sortir du terrain. Moi, je me souviens d'une séquence où il lève les bras parce que la passe n'est pas venue, le gars avec le ballon, il a pris trop de temps, il a levé les bras dans les airs, un peu tanné, il se replie pas, et puis, tu sais, le langage verbal...
C'est ça le foot.
C'est correct. Laissez les joueurs avoir leur propre personnalité. Arrêtez de vouloir tout le temps les changer à tout prix. Il y a des personnalités qui rendent ces joueurs meilleurs. Si Nacho Piatti est bon, c'est parce qu'il est égoïste.
Ben oui. Hein? On va demander à Dominic Oduro. Il va le confirmer.
Oui, mais il est bon parce qu'il a toujours été égoïste.
Non, c'est vrai.
Tider, s'il est bon, parce que c'est un rageant sur le terrain, il y a la colère qui l'anime. Et quand il prend ses zéros... Moi, je veux voir ce gars-là être... je veux pas le voir être comme je m'en foutisme, tu sais.
Non, il est tout impliqué. Honnêtement, en termes de professionnalisme, Tider est professionnel dans le jeu. C'est ça qui fait... Et honnêtement, tout le monde me autoprogramme comme super fangirl de Savvy Tider. Je suis pas la fangirl de Savvy Tider. Je suis pas le président de son fan club. Mais bon, je vais jouer ce rôle quand même parce que ça fait rire tout le monde. Ça, c'est du bon TTM, mais pour dire... Honnêtement, là, ce que moi, je trouve qu'il y a une certaine discrimination envers les attentes que les gens ont envers Tider, que je lis, que j'écoute, que je vois. Je comprends pas trop, parce que je sais pas, on met les attentes tellement envers lui. Oui, il est joueur désigné, oui, patati patata, mais ça change. Moi, je trouve qu'il livre la marchandise. Quoi, il est déjà à 3 buts, oui. 4 buts.
Il a le même salaire que Camacho.
Exactement. Il a 4 buts. Il est influent sur le jeu. Il fait des passes.
On
le fait jouer plus en position, mais en plus, il joue offensivement pour l'impact. Il joue, le but, là, le succès de l'impact avec Tider, c'est qu'il joue, plus vers l'avant. Qu'il laisse Azira et Piet, faire le relais au milieu de terrain. Ça, c'est clair. Tider, tu vas voir très peu jouer en arrière, sauf s'il veut vraiment descendre, parce que les instructions, c'est qu'il va vers l'avant. C'est lui qui est le deuxième attaquant du club. C'est le deuxième attaquant du club.
La première occasion qu'on a eue de but là, dans la première minute, là, c'est parce qu'il n'était pas dans son côté gauche. Il était aspiré comme à l'habitude, un peu avancé position axiale. Puis c'est lui qui anime le jeu.
Mais il ne faut pas trop obséder sur la feuille de match et l'alignement là, sur la photo, la jolie photo sur Twitter. C'est parce que Tader a été mis à gauche qu'il va juste rester à gauche. On savait qu'il va faire côté gauche, puis couper, puis changer de côté. Et puis, mais c'est clair qu'il allait rester plus à gauche. Sinon, il allait se mêler le pied avec Oyonko. Mais pour dire... C'est que Tider, il fait la job, là. Tider livre la marchandise. Là. Donc, dites-moi quelles sont vos attentes par rapport à lui, parce que c'est un milieu relayeur. Défensivement, je pense qu'il défend moins qu'avant, je pense qu'il a le temps de moins, et puis il n'est pas aussi bon à défendre qu'avant. Il est plus un milieu relayeur dans une équipe qui a le ballon, comme Kansas City.
L'équipe a moins besoin de cet élément-là au milieu du terrain. Avec Azira, c'est...
Surtout avec Azira et Piet, mais dans une équipe comme KC, Tider, et tu le mets en numéro 8, là, il est bien. il est top. Et puis, je comprends pas, c'est comme, parce que Tyler devrait se rappeler, s'appeler Tyler Ritty, puis que soit né à Rosario. Tu sais, c'est quoi les standards? Si Tyler était argentin, on parle déjà d'MVP de la ligue, là, quasiment. Je le dis comme ça, ok? Je le dis, là. Non, je blague, évidemment. C'est une blague. Parce que comme je suis la fangirl numéro un de Tyler,
t'as
déjà le droit. Non, mais pour dire, c'est que, on lui demande tout et rien en même temps. À un moment, on va lui demander, c'est peut-être à cause de lui que Novi a perdu son passeport, peut-être.
Hein? Non, mais c'est les gens lui. Critiquent pas tant que ça. De temps en temps, souvent les questions sur Tyler, c'est beaucoup plus pour toucher ta corde sensible. Non, mais généralement, Tyler est hautement estimé dans le club, par les fans, les médias.
Mais c'est un rouage important du club, clair. Dans son rôle, dans le poste auquel il joue, il est important. Il s'appelle Tyler, il s'appelle Jemali, il s'appelle Bernier. Trois joueurs que j'aime bien, je m'en fous à la limite. C'est de façon objective et robotique. Est-ce qu'ils font le travail? Oui. Est-ce qu'ils ont des lacunes? Oui. Ben sinon, ils seraient en train de jouer la Ligue des Champions contre le Bayern de Munich et le Real de Madrid. Et à un moment, ton standard doit se moduler par rapport au contexte. Parce que le mot-clé de ce podcast, c'est contexte. Et quand on contextualise ce qu'il fait dans le terrain et les autres joueurs aussi, on se dit oui, on peut expliquer tel comportement. Si tu me dis oui, pourquoi l'impact? J'ai l'impression que l'impact leur manque l'offensive, de l'attaque. Pourquoi? Ben, le milieu de terrain, c'est Piet, Tyler et Azira. Piet, offensivement, c'est plus les passes vers l'avant, puis je pense qu'il s'améliore beaucoup avec ça. Tyler, c'est box to box, mais il y a un peu de déchet dans son jeu, parce qu'on lui demande de faire beaucoup de choses offensivement qu'il n'est pas habitué à faire depuis longtemps. Et 3, Azira. Azira, c'est le maillon faible de l'apport offensif désiré.
C'est très limité. Il y a ses avantages dans un contexte particulier.
Exactement.
Mais dans une saison complète où on a besoin d'avantages, ça va toujours être un problème. Le club le sait.
Voilà, mais dans le contexte d'apport offensif, Azira est le maillon faible du milieu de terrain. Mais dans d'autres contextes, il fait le travail.
Exact.
Il fait le travail. Moi, je trouve qu'il est bien. Mais c'est juste par rapport à ça, il faut contextualiser tout. Il faut comparer le comparable. C'est comme quand, par exemple, tout le monde rit de Camacho quand il se fait avoir par Russell. Mais Russell sur l'action, le but du 4-0 en début des mi-temps, c'était symbolique du match.
Ouais.
L'ascendant psychologique, mental, physique, tactique de Casey par rapport sur l'impact était évident sur cette action. Camacho recule, Russell est tout seul, contre un, il est gaucher. Tout le monde savait qu'elle est coupée vers l'axe, même Camacho. Ouais. Mais comme défenseur, il devait le diriger vers l'extérieur. Il s'est fait avoir. Camacho n'est peut-être pas si bon que ça, mais cette action-là et ce but, c'était anecdotique, c'était la journée à Russell. Point final.
Justement, Maxime Poloquin nous demande qui était pire entre Camacho et Cabrera. On peut toutes les mettre, les pauvres.
Les deux sont ex-aequo, parce que Cabrera et son slalom dribble, là, c'était assez catastrophique. Ouais. Mais
tout le monde avait l'air d'une déconcentration totale. C'est pour ça, au début du podcast, je l'ai dit, le climat, ce qui s'est passé avec Novillo, j'aimerais vraiment être capable de savoir les conversations qu'il y a eu entre les joueurs pendant les 12 dernières heures. Là. Ça devait se sentir. Là. Tout le monde a commencé le match un peu nerveusement. Mm-hmm. Le but a été marqué, le niveau de stress a augmenté. C'était tout sauf serein sur le terrain.
Non, c'est vrai. Et puis,
il aurait fallu vraiment des vrais vétérans derrière. Là. Un Fanny derrière qui calme, qui donne une certaine assurance. Même Diallo aurait pu faire ça un peu. Là, on se retrouve avec Cabrera et Camacho. Il y a des gros points d'interrogation à chaque fois. Là, ils le sentent. Là. Les joueurs le sentent. Là, toute cette méfiance du public envers eux. Ouais. Donc, mais quelque chose qui se passe sur le terrain qui confirme notre méfiance, mais ça vient les atteindre.
Non, c'est vrai. Mais par rapport à ce match-là, encore une fois, devant eux, c'était catastrophique. Tu veux qu'ils fassent quoi? Tu penses vraiment qu'ils ont le niveau de Nesta et Maldini version 2002, puis ils vont arrêter Russell toute la journée? Non, ça se fait pas.
C'est pour ça que même avec l'histoire de Novillo, les gens qui prévoyaient une victoire à KC,
positif.
Je vous admire. Parce ça, que...
mais s'ils le font,
c'est quelque chose. On le veut tous. Là, on veut tous 34 victoires. Mais y croire, c'était...
Regarde, soit c'est un super fan, je respecte ça. Soit, comme on l'avait dit avant, ils prennent en compte l'attitude, l'attitude conquérante de ce club en début de saison. Je dis OK. mais ton sample, ton échantillon, il se passe sur 4 matchs et demi. Donc, ouais. Et 2 matchs pré-saison qui n'étaient pas si bons que ça. Donc, je dis, OK, bon, chacun son opinion.
Ouais, ça commence à faire pas mal de matchs, là.
C'est vrai. Mais tu sais, par rapport à Casey, là, ce qui t'arrive, j'ai déjà parlé de ce concept de cette métaphore l'an dernier et celle d'avant. C'est par rapport à l'effet sable mouvant. Tu sais, l'impact joue. On dirait que tout se passe bien. Ça se déroule bien, Casey, ça, on les gère bien. Puis après, bon, il y a une chose qui se passe mal, une erreur, ensuite une autre. Et à chaque fois que l'impact essaie de se battre, et plus ils essayent, plus ils commencent à se noyer dans le sable mouvant. Je crois qu'il peut plus bouger, il peut plus respirer, et c'est fini. Sable mouvant, t'es noyé, ton match est fini. Et c'est ça que ça se voyait, Nilton. Mais tu sais, c'était quoi ce match-là? Imagine-toi avec tes amis du mercredi soir, vous jouez contre une équipe là, de la PLFQ en 7-7. C'est la même chose.
Est-ce qu'on a Martino avec nous?
Martino, il court?
Oh oui, ça, il court.
Ah, voilà, c'est avec ça qui compte. Dans le foot, il y a que ça qui compte. Non, mais tu vois, mais imagine le contraste. Au début, hein, ils ne vous connaissent pas. Disons que personne ne se connaît, ok? On ne sait pas quel niveau, puis vous dites, ok, on joue. L'équipe PLFQ, on ne sait pas c'est comment, ils jouent. Vous êtes bien pendant 5 minutes, vous gérez bien. Nathan fait un bon tacle, et ensuite, boum, un but.
Personne ne sait qu'Alec est gaucher pendant 15 minutes.
Exactement, le Riyad Mahrez du Mexique. Donc,
et là, on marque, on prend un but.
Un but, et deux, et trois, et le match est fini. Donc, je ne dis pas que l'Impact est un club de garage et qu'ici est un club d'élite. Mais
c'est ça que tu as dit.
Oui, c'est ça que je veux dire en fait. Mais le contraste te fait penser, oui, ils jouent pas le même football, ils ne jouent pas dans la même ligue. Et quand tu vois ce qui se passe autour de la ligue, quand je vois le triplé de Carlos Vela, quand je vois les deux buts de Alejandro Pozuelo pour le Toronto FC, ce fameux club qui était mort avant.
Et les jeunes qui ont obtenu des minutes, le Pomical, c'est ça son nom, celui de Dallas?
Oui, Pomical, deux buts.
Et Buzio aussi, il y a 16 ans, le kid. Moi, ce match-là, là, j'aurais voulu. Ça m'aurait pas dérangé qu'il mange une volée comme ça, mais j'aurais tellement aimé que Chouanière puisse l'avoir sur 90 minutes à gauche.
Ouais, je suis d'accord.
Merde, c'est tout le temps. Je sais plus où j'en ai parlé. Je pense que c'est avec Jean Corriveau, Radio Média Plus. J'ai hâte. Tu sais, il faut pas désespérer. Piatti pourra pas jouer tous ses matchs. À un moment donné, il va avoir cette position-là d'ailier disponible pendant un match au complet. Et là, on a l'espoir au moins d'avoir quelqu'un sur le banc prêt à faire ces minutes-là. Merde, il est encore blessé.
Ah oui,
Est-ce que ça va être un problème pour son développement?
Ben j'espère qu'il a pas la malchance de son frère en termes de blessure, sinon ça va mal. Mais on verra.
C'est une occasion complètement ratée. Là. Dans ce match-là, le perdre à Casey, de toute façon, on aurait probablement perdu ce match-là avec Piatti, ou si bien utiliser ces minutes-là de qualité pour prendre ça, nos jeunes de l'académie.
Mais je pense que Baya aussi était blessé il y a 2 semaines.
C'est fou. Là. À chaque fois que les jeunes sortent de l'académie puis qu'ils ont des temps disponibles, ben, ils sont blessés. Merde. Ça,
pas de chance. La tête de Fred Jean-François, quelle bière de la Fort du Malte est votre préférée?
Pour ce match-là, là, il faudrait une bière assez forte. Hein.
Bon, moi, j'ai juste goûté la Mer Ardente et la Grand Blanche. Excellente. J'ai pas encore essayé les.
La rousse, comment qu'elle s'appelle, la rousse, la tignasse.
La tignasse, ok, je l'ai pas essayé. La tignasse, ça a l'air bien. La Côtesse. La Côtesse, je pense que. Hein, avalanche d'aromates fruités et tropicaux. Provenant de l'agencement des houblons sélectionnés. Là, je vois Alec et Borat qui sont genre. James Simono, ils sont en train d'orgasmer autour de cette description des notes d'ananas et de papaye et de mangue. Nous envahissent.
Ils ont vraiment la meilleure bière là, pour ce match-là, c'est la Scottish. Parce que, un, elle est forte.
Et deux, c'est Johnny Russell.
Elle est vraiment parfaite pour ce match-là. Elle a tout pour encaisser le 7-1.
Et trois, elle joue du pied gauche. Donc, et puis, quelle serait ta punition pour Novilo? Ouais.
Mais toi, t'en donnerais pas de punition?
Si c'est un règlement interne, suite au règlement interne...
Peu importe le règlement. Je veux dire, cette situation-là... Là,
non, ça...
Ça n'existe pas un règlement dans le contrat, il ne faut pas que tu perdes ton passeport, OK?
Il a été déjà puni en voyant ses coéquipiers se prendre 7-1, puis ils vont le regarder, gars, tu les as laissés, tout seul, à Casey, donc voilà.
Ce qui va être facile à faire, sa
punition.
Ce qui va être facile à faire, c'est que tu vas pouvoir le suspendre probablement 1 ou 2 semaines, parce que de toute façon, il ne pourra pas jouer la disponibilité là, de ce joueur-là pour avoir un passeport temporaire rapidement, tout de suite, la semaine prochaine, ça ne sera pas si évident que ça.
Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais de bon, toute façon, oui, j'ai vu ta recherche sur le site du consulat français.
De toute façon, si tu n'es pas disponible, c'est too bad, tu ne seras pas payé. Ouais, c'est pas une blessure. T'sais, quand tu te blesses, il y a tous les contrats de sportifs, ils ont ces clauses-là, tu n'as pas le droit de faire tel sport. Parce que
mais je conseille à l'Impact de faire attention, parce que la dernière fois que j'ai suspendu un joueur, il s'appelait Ventril Lefebvre, puis leur suspension était illégale. D'après le contrat, la convention collective.
Vasily, il a lu la convention collective, lui.
Vasily qui va gérer le budget, les joueurs et les suspensions de discipline.
Mais oui. Mais il va voir, il va confirmer si c'est valide ou pas. Il a même dit, lui, en entrevue, l'avantage que je sois ici, c'est qu'on n'est pas obligé d'appeler à tous les jours à la MLS pour valider un règlement. Lui, il les connaît, les règles.
Il les connaît.
Non, mais c'est une attaque, c'est fait. Il a lui-même dit.
Moi, je ne donnerai pas de punition. Je pense que one-to-one talk, c'est une punition. J'espère que c'est un règlement interne. Et j'espère aussi que ça ne cache pas un incident un peu plus grave que ça. Je doute. Je pense pas. Ça m'intéresse pas de le savoir. Mais je trouve ça bizarre. Donc, merci, Fred Jean-François, pour la question. Puis, n'hésite pas, laforgemat.com, puis demande, tu peux la contacter, puis ils vont te dire où est-ce qu'ils vendent leur bière à Montréal.
Sur le site web aussi, il y a tous les distributeurs et disponibles.
Ah oui, c'est vrai, ils l'ont mis à jour, c'est vrai. Excuse-moi, ils l'avaient mis à jour, donc yam. Sinon, le salon de dégustation à Trois-Rivières pour essayer leur bière. Main de fer, grande velours, la Forge du Malte. Next.
Guillaume Desmarais nous demande, doit-on remplacer Bush?
Ah, il faut arrêter. Là.
Ah, ben, le pauvre, il pouvait absolument rien faire. Ouais. Aucun début.
Imagine, on avait. Comment s'appelle le gardien de Bayern Munich, l'allemand, là? Imagine qu'on avait Iker Casillas. Hein, c'est un exemple que tu vas comprendre. Nilton, il joue pas Porto. Hein,
mais il va pas super bien. Il fait des solides erreurs ces temps-ci.
Ah, c'est vrai.
On va retourner à Neuer.
Imagine que Neuer il joue contre Casey pour l'Impact, OK? Disons que l'Impact se prend 4-0 au lieu de 7-0. Ça change quoi?
La relance à la main de Bush aurait pas été. un but de moins. Voilà.
On a un but de moins. Ouais. Et peut-être New York aurait marqué un but, parce qu'il joue libéro quasiment.
Il aurait joué plus haut qu'au Routier.
Et que Tider.
On est rendu à 5-2.
Donc, c'est ça. Est-ce que ça aurait vraiment changé l'Impact qu'elle allait perdre? Je pense pas que le gardien aurait fait une grosse différence dans ce match-là. Puis, un gardien, là, le but est grand. Là. Puis,
la vraie question de gardien qu'il faut se poser, c'est quand les matchs sont de 2-1. C'est pas dans les 7-1 qu'il faut se poser.
Et que t'as une erreur de relance qui revient à chaque fois, ou que t'as le positionnement, le même type de tir, le même type de frappe, qui bat le gardien de la même façon. Oui, ça, tu peux le faire. Mais il faut pas faire trop analyse de gardien, ok, parce que le club a fait son choix dès le début. Bush, c'est numéro 1. Leur backup, c'est Diop. Je pense pas qu'ils veulent voir Diop jouer 15 matchs à MLS.
J'avais oublié.
C'est toi aussi, tu l'as oublié, bravo.
Quand Chaumy a plus de minutes que Diop,
c'est un peu normal. Un gardien, il joue pas. Un joueur peut jouer des minutes de remplaçant. Arrête de être un hater. Maintenant, trouve une question sur Orotti, ce qui fait qu'on parle de ton joueur préféré.
Pose-la la question.
Il y a Philippe Orden qui nous demande, salut Philippe. Orotti, 10 buts, si ça continue, il n'aura même pas 10 tirs cadrés. Nilton est un génie.
Attends, on va prendre une pause. Et là, tu vas la dire.
Orotti, 10 buts, si ça continue, il n'y aura même pas 10 tirs cadrés. Pause. Dramatique. Nilton est un génie. Autre pause dramatique. N'est-il pas temps de mettre Ogier en pointe ou même Jackson Hamel et descendre Orotti en CAM, donc milieu offensif central? Peut-on se passer de Azira dans 4-3-3 remodelé? Très bonne question. Très bonne question, Philippe Borden.
Mais toi aussi, tu trouvais que j'exagérais avec Orotti. Tu me l'as tout le temps dit.
J'ai dit que t'exagérais parce qu'avant même que la saison commence. J'ai dit, merde,
oui, mais il venait pas d'arriver en MLS, Orotti. Orotti, il y a au moins 5 années en MLS.
Mais Nilton, je te l'ai expliqué pourquoi. J'étais pas en accord à 100%. Mais je connaissais le profil d'Orotti. J'étais d'accord sur ton évaluation de son profil. Mais moi, ce que je t'ai dit, même dans Kozou.
Tu pensais que dans la situation de l'Impact de Montréal,
que ça allait cliquer.
Il pouvait apporter l'élément finisseur qui n'avait pas peut-être la disponibilité à Dallas.
Exactement.
Et à Portland avant. C'est
exactement.
Ça que
exactement. Et en plus, même Mancozu a eu des chances de marquer, franche avec l'Impact. Donc si Routier reçoit 50% de ces chances-là, je pense qu'il va marquer 10 buts facile. Mais là, en ce moment, l'Impact.
On l'a eu la discussion. Il y avait tellement un lobbying positif de toutes parts sur Routier. Oui, ça m'a provoqué.
T'as été triggered?
Non, mais je veux dire,
Est-ce que t'es woke? Comme... Est-ce que t'es woke maintenant, Nilton? C'est ça que tu me dis.
Ça m'énerve de voir quand c'est exagéré juste d'un bord puis qu'il n'y a aucun retour de balancier. C'était anormal de le présenter comme finalement l'avant-centre qu'on a besoin.
Ben, par rapport à Mancuso, ben oui, t'avais pas
oui,
le choix.
Arrêtez. Mancuso, on devrait comme l'effacer du disque dur et ne plus jamais. Il devrait être l'équivalent d'une conversation. Tu sais, quand on se dit que dans une conversation, quand on se rend à Hitler, c'est qu'on est rendu trop loin. Ça devrait être la même chose avec Mancuso. Une fois qu'on est rendu à Mancuso, tu sais que la conversation est déjà allée trop loin. Non, on n'a pas le droit d'utiliser Mancuso. Il ben faut
oui,
penser
ben oui,
aux
oui,
avancants. Non, il faut penser aux vrais avancants de la MLS.
C'est vrai.
Et le club, ce qu'il avait besoin, c'était d'un finisher. C'est ce qu'ils avaient arrêté de me dire d'autres choses.
Bon,
c'est
ben,
faux.
On peut commencer à critiquer Vasiliki et Chrysamandis, alors. Parce que c'est clairement son rôle d'identifier les avant-centres MLS qui aideraient.
Je peux comprendre qu'ils se disent que c'était le meilleur disponible parce qu'on ne voulait pas accorder de place internationale. On voulait trouver une solution nord-américaine. Routy le donnait cette solution nord-américaine avec la green card. Tu sais, on peut le présenter tel quel, dire que c'est un complément. C'est pas, il faut pas le voir comme un buteur de 15 buts. C'est quelqu'un qui rentre dans le collectif puis qu'on espère qu'il va apporter la dimension offensive pour que les autres se développent. Mais quand je disais Routy moins de 10 buts, c'était une façon exagérée de ma part de dire « Guy, c'est pas un buteur, arrêtez. »
Mais regarde, comment le club joue, c'est difficile pour Routy d'avoir 10 buts. S'il joue tout si, si,
lui,
si,
oui. Oui, lui, oui. Ouais. Mais tu mets un autre joueur, un finisher, ok, tu mets à la limite que Camara, il y a au moins 2 buts de plus.
Ah oui, c'est clair. C'est clair. Et puis, juste une excuse, j'arrête pas d'appeler Vasily Krimazandis Vasiliki. Désolé, c'est Vasily son prénom.
Ouais, moi je dis juste Vasily parce que je dois encore pratiquer son nom de famille.
Parce que Vasiliki, c'est un prénom de fille. Parce que je connaissais une collègue grecque qui s'appelait Vasiliki. Donc, désolé, Vasily, j'ai fait une erreur. Donc, voilà. Donc, ouais. Excusez.
Et oui, tu sais, la question de Philippe est bonne. C'est pas pour rien que Dallas l'a sorti de la position d'avant-centre tout en le gardant sur le terrain parce qu'il y a des qualités. Là.
Mais encore une fois, Nilton, le facteur Tider et Piet m'ont fait croire que ça va marcher. J'y crois encore. J'attends les matchs à la maison. Je sais que c'est dans 2 mois, ça, mais j'attends les matchs à la maison. Okay? Ça va venir.
Ouais,
je pense que ça va faire la différence.
T'es en train de tomber dans le piège des autres là, pendant les autres saisons. On disait les matchs au début, ça compte pas.
Je sais pas quand tu oses m'insulter comme ça. Là. Vraiment, là, t'es vraiment dégueulasse. Je pensais quand t'es ami, je pensais que t'es collègue, puis là, tu m'envoie comme ça tu me jettes dans la poubelle là, comme un nobody. Bon, prochaine question. Philippe Rancourt, qu'avez-vous pensé du match de Lovitz? J'ai eu l'impression qu'il était souvent pris hors position à plusieurs reprises sur des contre-attaques menant directement à un but.
Quand il est pris hors position, habituellement c'est son milieu de terrain de son côté qui doit compenser. C'est Chaumy qui devait compenser. Tu sais, Azeroff, lui, au moins, il fait ce travail-là avec Sagna.
Oui, c'est vrai.
Très, très, très bien. Quand il monte, s'il n'est pas compensé derrière, c'est sûr qu'il paraît mal. Moi, ce match-là, offensivement, je trouvais que c'était son meilleur. C'est là qu'il a eu le plus de réussite.
Oui, il était beaucoup plus agressif et beaucoup un contre un, il faisait des dribbles et il battait son vis-à-vis facilement quand il lit.
Exact.
Donc, on voit clairement là, sa confiance avec l'équipe nationale américaine lui donne contenu et se traduit avec l'impact, donc tant mieux. Mais c'est un match à oublier. Moi, qu'est-ce que vous pensez du match 2, mais n'importe quel joueur? Puis j'ai l'impression qu'il était souvent hors position. J'ai plusieurs reprises de contre-attaque maintenant. Bon, on va essayer. Qu'avez-vous pensé du match de Piet? J'ai l'impression qu'il était souvent pris hors position à plusieurs reprises de contre-attaque maintenant qu'il a tombé à but. En fait, tu mets n'importe quel joueur, puis ça marche.
C'est ça qui est bien.
Sauf Mancuso. On peut plus parler de lui parce que...
Voilà. Non, on a réglé ce problème-là.
C'est
fait. Clifford César nous demande, Camacho, on fait quoi avec ce joueur? Ah, la question. Ben, hein.
Ce que tu fais, tu l'échanges pour Simon. Et c'est réglé.
Oh, waouh! Waouh! Attends. Oh!
C'est réglé.
Oh, waouh! Oh, waouh! Simon doit faire moins?
J'espère. En tout cas, j'espère que je n'ai pas fait le calcul, mais pourquoi pas? Bon, OK.
Si on va chercher Simon, et c'est clairement entendu avec lui que là... C'est une solution de soutien. Il n'est pas partant. Il est là. Probablement qu'il dirait oui. Hein?
Ouais. En parlant de positive attitude, ouais. Ouais, moi je suis d'accord.
Les gens seraient prêts à accepter cet échange-là?
Ben oui, on va oublier rapidement.
Simon contre Camacho.
Ouais. Il est passé de héros à traître, il va devenir héros.
Correct. C'est comme l'histoire de la Bible, hein?
Ah, la rédemption. Tout comme ça, les 10 commandements.
Oh, wow, tu me fais rêver, là.
Ah, je te fais rêver. Bon, à part ce scénario farfelu, qui n'est pas totalement fou, on fait quoi avec Camacho? Ben, il jouera lorsque...
C'est sûr qu'ils sont en train de magasiner dans MLS avant de trouver une solution externe.
Je pense que oui, parce qu'il coûte beaucoup d'argent, c'est pas très moneyball, c'est pas très... Mais en même temps, c'est encore un joueur.
C'est
ce qui est ironique, il commence sa saison 2019 comme il a commencé sa saison 2018, contre un top club à l'extérieur. Les Red Bulls, il se fait détruire. L'équipe est en naufrage collectif. Contre les Red Bulls l'an dernier, je sais pas, tu te rappelles ce match, Nilton, ouais. Son premier match, le fameux coup franc de Vargas. Mm-hmm. Et ensuite, Casey.
Même lui, je l'ai beaucoup critiqué, hein, Vargas, mais même lui, cette tête qu'on disait un peu folle et trop souvent en retard,
ouais.
Même lui, il n'a pas perdu son passeport.
Son passeport, même lui, incroyable.
Même lui.
Je pense qu'il le donnait à Cabrera, là, puis ils chillent ensemble.
Victoire. Anyway, je vais arriver tight.
Tu peux garder mon passeport à l'embarquement. Et puis, donc c'est ça, moi personnellement. Puis après, tu le mets contre Casey, son premier match. L'équipe devant lui est en plein dégringolade. Puis lui, ben, il peut rien faire. Tu sais, il va juste subir ça. Si c'était Fanny, il regardait le match à 2-0 pendant 75 minutes peut-être, hein, par miracle, parce que Fanny est trop fort. Mais il n'y a rien à faire avec Camacho. Là, c'est genre,
mais Camacho, c'est, présentement, tout ce qui est faisable, c'est trouver une solution à l'interne dans la Ligue.
Regarde, tu le transfères.
Arrivé cet été, tu peux déjà commencer à dire à l'agent, ben, you know what, tu peux te trouver une solution, comme ils ont fait avec Silva.
Oui.
Puis ça prend du temps. L'agent va commencer à faire son travail, trouver des solutions externes en Europe. Puis quelque part au mois de juin, juillet, on va apprendre qu'il a été prêté, option d'achat, blablabla. Il finit pas la saison 2019 à Montréal. C'est impossible.
Non, pas... Ben malheureusement, je pense pas qu'il aura sa chance de performer, de montrer
c'est
un bon défenseur, mais à chaque fois, là, il s'est pris une grosse raclée.
Ouais.
Donc déjà, dès que Diallo revient, il prendra sa place.
Ouais.
Et est-ce que le club va penser peut-être à remettre Rémi Gade, à remettre Raïtala avec Diallo? C'est un risque, là, mais on se pose des questions.
Non, mais après le premier match, on disait qu'il était trop tôt. Là, on est rendu à je sais pas combien, une dizaine, douzaine de matchs de Camacho. C'est le même match. On voit toujours Camacho de la même façon. Il y a eu deux, trois belles. Il y a eu peut-être un ou deux matchs offensivement où il a bien paru.
Offensivement, qu'est-ce que j'en ai à faire de son rapport offensif?
Tout à fait. T'sais, on dit qu'il est meilleur dans le jeu posé. Oh, wow. Un défenseur qui est pas bon dans le jeu posé, ça serait la catastrophe.
Ah ouais, c'est comme moi les mercredis soirs. Et je viens jamais, donc je suis bon tout le temps.
Ouais, moi, quand personne court, je suis super bon.
En fait, c'est pas compliqué. Quand on parlait de Camacho l'an dernier, je me disais, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'est-ce qu'il y a de plus Camacho que Victor Cabrera?
On l'a vu.
Donc voilà, donc Camacho, soit je sais pas moi, il reprend un peu de confiance et qu'il joue des gros matchs et puis ça marche bien, tant mieux. Ou comme tu as dit, Nilton, transfert, échange à MLS, option d'achat, prêt, whatever. Et comme j'avais dit il y a deux semaines ou il y a trois semaines, le dernier épisode dans lequel j'étais présent, le déséquilibre du recrutement défensif de l'Impact n'est pas justifié par ce qu'on voit offensivement. Et il n'est pas justifié par ce qu'on voit dans les résultats. On sait que Rémi Garde veut avoir une défense... Un jeu défensif propre, il veut tuer le match avec la défense et ensuite utiliser ses joueurs de talent pour les laisser libres et pour s'exprimer avec leur créativité et faire mal offensivement. Un peu ce que fait Kansas City, ils vont te museler, ils vont prendre le ballon, ils vont essayer de laisser jouer. Hein. Kansas City, en termes de stats, de position de balle, c'est pas tout le temps, c'est pas le Barça là, mais ils ont les joueurs pour vraiment te faire mal. Et je trouve que c'est ça. Le déséquilibre de recrutement vers la défense n'est pas justifiable parce qu'on voit qu'offensivement, c'est trop pauvre. Et encore une fois, il manque ce fameux 3e milieu de terrain. Oui, il manquerait un Urruti plus, c'est-à-dire un attaquant qui est prêt à faire la différence tout seul. Nilton, je suis d'accord. Ça coûte de l'argent. Ça coûte le salaire de Piatti, pas avoir un joueur de ce niveau-là. Et puis, on a ça à Toronto. Il s'appelle Tildor. Puis l'autre s'appelle... Pozuelo. Et c'est aussi simple que ça.
Incroyable.
Il faut payer l'argent.
Quel premier match,
hein. Une Panenka, puis un lob des 18 mètres, il faut le faire.
Hein. Il était en pleine confiance, le garçon.
Et c'est assez incroyable. Donc, on voit la différence. Puis, on voit, c'est la Ligue, là, c'est comme partout dans le foot, à part la Serie A des années 2000, il faut attaquer. En fait, LAFC, Vela, Rossi, Phil Harbour, tu vois Casey, et les Galaxy, ils ont de l'argent, mais c'est pas grave. DC United, avec le nouveau, là, Lucas Rodriguez. T'sais, honnêtement, genre, ils sont là pour faire mal. Hein. Et en plus, l'équipe qui ressemble le plus à l'Impact, c'est plus l'équipe Montréal, c'est plus Philadelphie. On a quelques bons joueurs, on est solide défensivement, on joue physique.
Sauf que Philadelphie, au niveau jeunesse, ils sont une coche en avant de Montréal pour l'instant.
Oui, c'est vrai. Mais quand on compare les clubs, l'Impact, c'est pas Seattle, c'est pas DC.
Et c'est pour ça que quand on entend des rumeurs, là, la dernière, c'est l'avancement de Palmeiras, que Montréal aurait tenté l'intérêt, et que les gens nous disent « Pourquoi en avançant, c'est pas ça qu'on a besoin? » Non.
On a besoin de tout le monde.
La seule chose qu'on n'a pas besoin, c'est d'allier gauche.
Ouais, c'est sûr. Mais on a besoin d'aller les gauches, je pense, en juillet, là, pour préparer le départ de Piatti, mais bon.
Ça reste à confirmer. Le discours, il faut faire attention, là. Il y a le discours de Piatti en Argentine.
À la radio
en Argentine, Pop. Où il dit depuis 3 ans que c'est peut-être sa dernière année. Et il y a celui de Montréal, où il n'a jamais dit à Montréal. À Montréal, lui, ce qu'il dit, c'est « Moi, je suis heureux ici. Si la situation est parfaite au niveau familial, ainsi de suite, puis que le club me veut, je vais peut-être rester. »
Ouais.
C'est un double discours, puis c'est pas méchant. T'sais. Nacho, on le voit, là, c'est pas quelqu'un qui, à part la fois où il a fait le signe pour un nouveau contrat.
Il a pris sa retraite au-dessus le terrain.
T'sais, comme ma grand-mère dit à chaque Noël, c'est peut-être mon dernier Noël. Lui, il a dit, c'est peut-être ma dernière année. Mais c'est culturel, c'est... Donc, le départ de Piatti, moi, je pense que c'est du 50-50 encore. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer.
Non, c'est vrai. Puis, il y a beaucoup de gens qui rejoignent par rapport à... En tout cas, tout le point qu'on a dit, là, j'ai le tweet de Steph par rapport à Camacho qui est un flop total. Il ne veut plus donner sa chance. Urruti, c'est tôt. Mais pour qu'il soit utile, il faut que Piatti soit à la droite et à la gauche. Donc, tu sais, on voit que l'impact est serré.
Olio nous demande... Bon, bien qu'il n'est pas responsable pour tous ces buts-là, combien de temps on va encore tolérer les erreurs de Bush, les erreurs de placement, de relance, de sortie? Ça fait 4 matchs, il est déjà revenu à ses vieilles habitudes. Ben, il les avait, ses habitudes, l'année passée aussi. Là.
Moi, je pense qu'on n'aura pas ce débat-là jusqu'au mercato d'été.
Ah, mais encore plus. C'est un contrat de combien d'années?
3 ans, je pense.
Le
contrat est tellement bon qu'il l'a pris à parler français. Comme ça, là.
Pour un Américain, c'est quelque chose.
Son compte de banque a tellement explosé que, boum, dans son ADN, le jeune français a été activé. Il est prêt.
La situation de Bush n'est pas vraiment un débat. Le seul truc qu'on peut débattre, c'est son salaire dans un contexte de cap salarial. C'était beaucoup d'argent, puis ça va toujours rester beaucoup d'argent pour un gardien avec beaucoup de points d'interrogation autour et qui avait peut-être une solution moins chère à l'intérieur de l'organisation.
Mais la bonne nouvelle, Nilton, en termes de contraste, quand tu vois les salaires de Camacho et d'autres joueurs, tu dis, Bush, c'est pas cher.
Mais j'adore comment tu trouves tout le temps une situation pour trouver finalement que la situation où on est belle. En utilisant la pire, là, je disais, oui, Camacho.
Oui, mais je compare deux joueurs qui ont des postes différents. Là. Je suis pas on compare un gardien à un joueur de champ. C'est très différent. Je compare pas un milieu offensif à un ailier droit.
C'est vrai que les salaires des gardiens MLS ont maintenant tendance à augmenter parce que probablement ils étaient sous-évalués. Là.
Tout à fait. Moi, je pense aussi. En termes des questions sur le collectif, Jérôme Dion, c'est simplement une erreur de parcours ou un résultat qui dévoile des faiblesses réelles dans notre bleu, blanc, noir? Puis une autre question qui aurait joué aussi. L'IND, l'équipe a mangé une raclée qui va peut-être les refocuser. Toute l'équipe se pensait peut-être trop bonne avec le bon début de saison et la vague optimiste pour l'interrogation. Clairement, aucune team entre Oruti et Orji. Rémi Gard doit trouver des solutions pronto. Donc voilà, deux questions sur le collectif et comment on va réagir après ça. Je pense qu'en termes de travail de psychologie sportive, c'est important ce qui va arriver les prochains jours, Nilton. Puis ouais, j'espère que le discours d'après-match de Rémy Garde n'était pas totalement négatif.
Ouais, je pense pas qu'après le match, il y avait vraiment un besoin de dire quoi que ce soit. Là.
Et puis la meilleure chose qui aurait pu arriver pour l'Impact, c'est qu'ils avaient un vol nolisé. Donc, ils ont pris l'avion direct, puis ils sont arrivés direct à Montréal. Ils n'ont pas besoin de manger le soir à Casey.
Je suis en train de dire que finalement, cette fameuse... comment je dirais ça? Souvent, on utilise cette... voyons, on cherche mes
avantage,
mots.
Avantage, avantage.
Ouais, on dit souvent que le fait qu'on ne voyage pas de Nolizé, ça explique nos défaites à l'étranger.
Comme le reste finalement, de la Ligue, OK.
Ouais, finalement, la fois où ils sont nolisés, ils mangent la pire volée de l'histoire.
Exactement. Okay. Mais c'est peut-être bien. C'est peut-être bien qu'il rentre direct. Tu n'as pas le temps de rester à l'hôtel. Tu ne passes pas la nuit. Tu ne manges pas des ribs avec Dave Lévesque et Nick Martino. Donc, tout se passe bien. Tu rentres direct à la maison, puis avec ton passeport en main.
C'est peut-être ça qui est arrivé l'autre fois à Houston et resté aux Hooters.
Quel podcast de bordel, on est vraiment bordélique là.
Spécial.
Je pense pas qu'on va être nominé à aucun comment dire
festival quelconque, gala des podcasts.
Gala des podcasts, jamais. Avec ce qu'on a fait aujourd'hui là.
Peut-être notre lien entre Mancuso et Hitler va peut-être être repris pour dans d'autres médias.
On va tellement se faire pousser en justice, ça va être marrant.
Bon, je m'en allais. Ah oui, ce que je voulais dire, ce que j'ai aimé, au niveau des joueurs, là, je ne sais pas ce que ça va donner comme impact, mais ce que j'ai aimé, c'est une des réponses de Rémy Garde en conférence d'après-match, où il a dit que lui aussi, il doit se questionner.
C'est vrai.
Ça, c'est bien parce que ce n'est pas nécessairement que la faute des joueurs. C'est le fait que tout le staff, je ne sais pas, peut-être que... Imaginons un scénario où Joel Batts dit à Rémy Garde, sais-tu quoi, on devrait peut-être aller avec deux attaquants. Tu sais, on n'a pas l'effet. Tout le discours que j'ai eu, peut-être qu'un Joel Batts l'aurait eu aussi. Et Rémy Garde dit, non, sais-tu quoi, je suis Sofiane, 4-3-3, blablabla, 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 bla, 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 puis...
Voilà, et 7-1.
Non, mais c'est... Blablabla. Il y a probablement ce genre de confrontation d'idées là, au sein du staff. Là. Pas vrai qu'ils pensent tous de la même façon.
Mais quand on va faire l'analyse du match, ils vont se dire, est-ce que c'était une lacune collective totale ou est-ce que c'était des individualités qui ont vraiment nous ont noyés, qui a engendré cette noyade? Ils vont le voir assez rapidement.
Et j'espère que Rémy Garde va se questionner en se disant, est-ce que j'ai été borné pendant tout le match? Est-ce que j'ai été affecté par l'histoire de Novilo, etc., etc.?
C'est possible.
Et oui, une volée de 7-1 démontre un petit peu c'est quoi les problèmes de ce club-là. C'est de façon accentuée. Des fois... qui sont cachés dans des défaites ou des victoires d'un but en se disant, tu sais quoi, si ça aurait été de notre façon, le résultat était différent. Là, le 7-1 enlève toute situation de match là, particulière. Là. On oublie le premier but non marqué, tout ça, et ça démontre exagérément nos problèmes. Mais... pour que la suite soit utile, il faut qu'on utilise ce match-là. Oui. Pour corriger ce qu'on a comme problème match après match, c'est-à-dire la créativité, le jeu posé au milieu du terrain.
Et le jeu vers l'avant.
Et le manque d'efficacité devant, la nature des... Tu sais, tous ces discours-là qu'on a depuis des mois ont été démontrés à caractère gras pendant ce match-là.
C'est vrai. Mais, pour garder le thème de la positive attitude, c'est que si c'est un 7-1 contre... Orlando ou contre Houston, ça aurait été beaucoup plus grave qu'un 7-1 contre Casey. Parce que dans le contexte, je ne suis pas étonné que Casey donne cette raclée à l'Impact à la maison. Je n'étais pas étonné. J'étais sous le choc, mais je n'étais pas étonné. Tu sais, ça me fait un peu... Tu sais, tu te rappelles le match l'an dernier à Minnesota?
Oui.
Où c'était juste 2-0, mais j'avais l'impression que l'Impact avait perdu 10-0. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait une vibe sur Twitter et les articles et même les podcasts qu'on a fait. J'ai l'impression que c'était catastrophique. Peut-être dans le déroulement du match, c'était très lourd, mais j'avais l'impression qu'ils avaient perdu 15-0. Alors que je trouve que le 7-1 va rendre tout le monde un peu plus sobre. Et puis aussi, j'espère, pour rejoindre un peu ce que disait sur Garde et son mea culpa, ou du moins son analyse pour arriver à peut-être un mea culpa ou pas, il faut qu'ils prennent en compte l'équipe. Qui est Kansas City? Ok. tu peux faire ce que tu veux avec ton équipe, mais Casey, sont, je trouve qu'ils sont tellement bons. Ils sont tellement bons, tellement intelligents, tellement efficaces. Pas parfaits, sinon ils gagneraient la Coupe MLS à chaque année, mais ils sont tellement bons que j'espère qu'il va voir un peu ce qu'ils font, puis et pour mieux expliquer les déboires du club et pas seulement se dire si on avait marqué un but, si on ne s'est pas pris de but avant la mi-temps, on aurait été bien. Parce que
t'as
je
raison,
pense,
Sofiane,
je pense que
raison,
Casey, puis, voilà.
Si, et là, cette semaine, Casey reçoit Monterrey.
Oui.
Je pense que c'est ça. S'il fallait que ce soit Casey qui gagne pour la première fois cette fameuse Ligue des champions de la CONCACAF du côté de la MLS, ça serait tellement bon pour la MLS.
Oui, ça va faire du bien.
Ça serait tellement bon que c'est pas finalement une équipe hein, de remplie de DP All-Star qui va faire ce travail-là parce que dans un contexte de Ligue des champions en plein début de saison MLS où il faut sortir les résultats aux 3-4 jours, que ce soit un club qui est en profondeur, là, très, très bien rempli, puis que c'est un club formé avec un effectif là, de façon intelligente, que ce soit ce club-là qui réussit à déloger les Mexicains pour une fois, ça serait bon pour la MLS.
Moi, je suis d'accord. Moi, je serais content. C'est un très bon point, Nilton, parce que, encore une fois, c'est
Evan Mix le mérite tellement. Là.
Tellement. Tellement. Si un club sportif, une organisation, une corporation à suivre en MLS, il y a un modèle à suivre, M. Kevin Gilmour, Kansas City, Slow Sporting de Kansas City, est le modèle à suivre. Et le modèle à suivre. Le stade, l'ambiance, les finances, le recrutement, la structure du club sportivement, c'est ça qu'il faut suivre.
Mais il faut être patient. Il faut être patient parce que ce genre de transformation-là du club, ça se fait pas en un an, ça se fait pas en deux ans. Là, c'est le vrai plan quinquennal. Là. Ça peut prendre du temps à aller chercher ces joueurs. Parce que signer un joueur, ça se fait pas en six mois. C'est long.
Non, c'est vrai.
Ça demande beaucoup de préparation au préalable.
Non, ça demande les personnes. Maintenant, on ne sait pas si...
C'est exactement ce que j'allais dire. Il faut aussi que ça soit une certaine continuité au niveau du staff. Là, je ne parle pas seulement le staff qui est sur le terrain. Là, ouais. C'est tout ce qui entoure. Là.
Ben, on verra, comme Vassili avait dit à Nick Martino, il a des ambitions d'être un directeur général de la MLS. Pourquoi pas avec l'Impact? Et peut-être lui, c'est lui qui va mener le club dans le paradis du football nord-américain, puis de rendre
oui,
ce club ben, dominant.
Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, tout le monde est au service de Ringard et c'est correct, là. Mais éventuellement, il va falloir que la restructure. Il faut qu'il y ait une structure qui inverse cette relation de pouvoir-là, éventuellement.
Maintenant, deux questions purement CCPP et non football. Monsieur Alexandre Dubuc, à l'Edub, faut boire combien de bières à la Force du Mal pour perdre son passeport? Celle-là, elle est bonne. Oh, elle est bonne, celle-là.
Surtout, il faut être où pour la perdre?
Il faut être où? Oh, mon Dieu. C'est quoi le contenu de l'alcool, la Force du Mal? C'est du... Il y a un peu tout. Ça va de 4% à 8%.
Il mérite son propre hashtag, là, Novilo.
Ouais, Novilo. Et maintenant, Matteo Marquez, Matteo Co, 1992. Qui croyez-vous aura une meilleure carrière? Chapeau Labov ou OG Aliassim?
Chapeau, ouais. C'est incroyable ce qui se passe au tennis, hein?
Tennis canadien. Le fleuron, ouais. Le fleuron de l'Amérique du Nord.
Mais c'est fou, là. Ces deux gars-là, il y a 10 mois.
Des inconnus, c'est là, puis maintenant, ils montent en même temps.
Ouais, en début d'année, Andreescu, personne ne connaissait
la petite jeune, ouais.
La jeune, tu sais, j'entendais à un moment donné quelqu'un qui donnait une entrevue puis qui disait que il y avait espoir là qu'elle franchisse finalement le top 100 cette saison. Guess what? c'est vraiment cool de voir parce que le tennis au Canada ça n'a jamais été. Il y a eu quelques petites vagues de temps en temps pendant semaine. Il y avait une surprise, quelqu'un qui.
Il y a quand même une tradition du tennis.
Oui.
Tu sais, il y a Milos Raonic, là, qu'on l'attend depuis... Tu sais, lui, il est mal tombé. Il est tombé avec Federer, Nadal et Djoko. Donc,
lui, c'est un des premiers, là, d'avoir, l'élite. Quand on parle d'élite, là, tu sais, oui, on était proche. Le tennis canadien a toujours été proche de l'élite.
Mais moi, quand je suis arrivé ici, c'était qui? C'était les gars du double, Nestor et le Québécois, là. Il y avait Nestor et... Il y avait pas... La Rose. En tout cas, il y avait les deux.
Mais Nestor, il a pas arrêté sa carrière comme il y a 12 mois. Il roule depuis toujours, là, Nestor.
Ouais, je pense qu'il avait déjà 45 ans, là, je pense.
Nestor, il est plus vieux que moi.
Daniel Nestor. Ah, mais t'es un jeune.
Il est né en 72.
T'es un jeune. T'es un jeune. Comment il s'appelait? Attends, c'est quoi son partenaire en double? Man, c'était pas un Québécois. Simon Larose. Mais ils étaient ensemble pendant 2 ans, je pense, non?
Ouais, il y a eu un autre aussi.
Il y a
plein de gens en écoutant notre podcast qui crient son nom.
Mais est-ce que il y a aussi Sébastien Larose? Je confonds Larose et Larose. Il y a les deux.
C'est peut-être la même personne.
mais en termes de tout ce qui est partenaire de double, hein, tu changes assez régulièrement. Je pense que ça change assez souvent. Mais donc, c'est ça. Donc, voici la question de tennis. C'est la deuxième question de Matteo Marquez.
Qui va être une meilleure carrière?
Ah, je veux dire, chapeau Lavov. Chapeau Valov.
Déjà, si tu disais son nom comme il faut, ça serait un plus.
Chapeau Valov.
Ouais, moi aussi, je suis un peu d'accord avec toi.
Chapeau Valov, mais je pense que les deux vont réussir. Maintenant, tu me donnes le choix. Moi, j'allais pour celui qui a frappé un arbitre avec une balle de tennis et qui a su que sa carrière a quand même continué après ça. Donc, il a un côté fou. Il a un côté fou qui pourrait le faire la différence dans une finale.
Je pense qu'on a d'excellentes chances d'avoir les deux un jour
en finale du Dames Masters.
Bah, moi, j'allais dire 16-42 avec la cloche.
Ah, clairement. Clairement. Peut-être un jour, moi et toi, on va te là-bas, Nilton.
Non, c'est ça que j'allais dire, tout le contraire de nous deux. Ils n'en veulent pas des gens négatifs comme nous. Et c'est correct.
C'est correct. Recommandation d'un documentaire Netflix.
Un documentaire Netflix. Moi, j'ai vu le show de Ricky Gervais, comme ça peut paraître pendant ce podcast-là. Documentaire. J'en ai pas vu d'autres documentaires depuis.
Moi, j'ai commencé la série Losers. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu ris?
Tu mens pas, là. Ça n'a aucun lien avec le 7-1, là.
Non, aucun lien. Ça s'appelle Losers.
Losers et tu finis la semaine avec un 7-1. C'est spectaculaire.
Non, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon.
C'est bon?
Oui, c'est vraiment bon.
Quand j'avais vu le trailer, je trouvais ça un peu cheesy. Je n'étais pas convaincu, là.
Non, c'est bon. C'est un documentaire. C'est une saison de, je pense, 8, 9, 10 épisodes. Puis, il parle à des athlètes qui ont connu l'échec ou tu sais dans des sports ou dans des disciplines où gagner.
Est-ce qu'ils ont annoncé Mancuso?
Non, pas encore. Non. Il est trop jeune pour ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Honnêtement, il a une histoire sur un club de foot anglais de 4e division qui est hallucinante. Et une histoire que je connaissais pas par rapport à Souria Bonaly. C'est une patineuse française des années 90. Souria Bonaly, c'est une patineuse noire dans un sport dominé par les blancs. Et voir comment son parcours a été un peu parsemé de discrimination ou pas. Je vous laisse regarder. J'ai le premier épisode, il est super, sur Michael Bent, le boxeur champion du monde malgré lui. c'est super intéressant. Regardez-le, il y a peut-être 8 épisodes cette saison-là. Et j'ai appris beaucoup sur le curling. Honnêtement, c'est super bon. Allez voir ça sur le curling. Allez les voir, c'est vraiment bon. Moi, j'ai adoré. C'est intense, il y a beaucoup d'émotions dans certaines. Et puis, je pense que j'ai hâte de voir le dernier. Tu sais, tu te rappelles le golfeur belge ou français, là, Van der Velde, qui menait de, je sais pas, de 50 coups, là, puis il a perdu. Ben, je pense, j'ai hâte de voir son histoire.
Un ami de Camacho.
Camacho, il n'est pas belge, il est français. Donc, c'est ça. Donc, je vous conseille Losers ou Les Perdants sur Netflix, Monsieur Marquez. Consommez ça. C'est vraiment bon. C'est des belles histoires. Puis, ça donne espoir que l'échec, c'est pas nécessairement une mauvaise chose et que tu peux remonter de ça.
C'est un documentaire. Oui, c'est ça. Ça fait des.
Espèce de haineux.
Merci. Moi, je suis accro. J'en avais parlé la dernière fois là, de Hassan Minhaj.
Oui.
C'est vraiment bon ce qu'il fait.
C'est bon, hein.
C'est bon.
Patriot Act, ouais.
Oui, vas-y.
Oui, vas-y. Non, c'est bon.
Mais c'est drôle, mais c'est hyper instructif, là.
Il te résume tout en 20 minutes, t'apprends tout, tu ris un peu, puis
c'est très bien fait. Oui, on sait que des fois, il y a des pointes qui sont exagérées, et c'est correct, là, parce que c'est la formule, là.
Tout à fait.
Mais un des derniers que j'ai vu, c'est la situation en Inde pour les élections. Wow!
C'est un vrai bordel, hein?
Non, mais sérieusement, tu commences l'émission avec zéro connaissance? Tu finis avec 20 minutes plus tard, 25 minutes plus tard, tu as un beau contexte, tu as une belle mise en situation et tu es intéressé. Là. La prochaine fois, je vais avoir une nouvelle sur la démocratie en Inde. je vais être intéressé. Ça va pas prochaine, tu sais, je descends pas mon fil d'actualité parce que j'ai vu Élection Inde et je continue, là. Et il réussit à avoir des entrevues en plus, là. Tu sais, il y avait une entrevue avec un des candidats. Il tient des propos. Si on dit que nous, ici, des fois, on est trop gentils avec nos athlètes parce qu'on les connaît, parce qu'on veut avoir l'accès éventuellement. Et lui, c'est pas ça du tout, là.
Non, ça, c'est
terrible, là. Les questions qu'ils lui ont posées, c'est du crunchy.
Non, c'est du crunchy. C'est un bon show. Et puis, normalement, t'as
tort. Genre, là, il y a plusieurs sujets, le politique, culturel. J'en avais vu un sur le hip-hop. Très, très, très bon, là.
Il parlait aussi de Supreme, la marque Supreme. C'est super intéressant. Donc, c'est ça, la recommandation, c'est Patriot Act de Nilton, parce qu'il est trop finant de trouver quelque chose d'autre. Et moi, The Losers, Ricky Gervais, c'est Afterlife.
Ouais. Si vous avez trouvé j'étais un petit peu...
trop négatif.
Ouais. Vous avez besoin après d'explications, qu'est-ce qui s'est passé avec Nilton? Écoutez, le show de Ricky Gervais, puis vous allez voir que finalement, c'est pas si pire que ça. Hein? Je reste quand même léger dans mes propos.
Surtout que perdre 7-1, c'est pas grave. Et aussi, je vous recommande Losers, les perdants, Netflix. Comment retrouver un peu le positivisme malgré l'échec. Sur ce, Newton, ça conclut l'émission. Merci tout le monde pour l'épisode 6 du CCPP, édition 2019. Merci à la Force du Mad, merci à Spreaker. Coucou à tous les auditeurs sur RMP Media. Et aussi, si vous voulez nous supporter, vous supportez la campagne Patreon du Cannes Football Club, patreon.com/CannesFootballClub. Vous pouvez donner directement aussi, en plus, après vous avez donné un petit dollar ou 5 au CANFC, donnez-nous un petit dollar ou 5 en termes de café au CCPP. Les liens vont être dans la description de l'émission. Nilton, merci encore.
Merci à toi.
On a tous hâte à cette semaine juteuse de drama TMZ.
Gonna be fun.
It's gonna be fun. Hashtag MFC. Moi, c'est Sofiane, lui, c'est Nilton. Et nous, c'est CCPP. Ciao tout le monde.
Ciao.
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.